Ah, oh, dans le film que je présente aujourd'hui, il y a deux mecs qui s'embrassent. Ça va encore énerver ceux qui hurlent à la propagande. Oups.
Allez du cinéma ! Allez du cinéma, bonjour !
Bonjour à tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Jeu 7 et match Challengers de Luca Guadagnino est en salle, et on voit la balle bien au fond du filet. Je vais arrêter les métaphores immédiatement. J'ai vu le film, il divise, on va essayer de trancher tout ça ensemble. À côté de ça, c'est lundi, c'est l'heure du bistrot d'Andrew qui ouvre ses portes pour ramener 4 auditeurs autour de la table afin de parler de cinéma plus ou moins récent dans une bonne ambiance. Et bien entendu, il y aura la question du public et Skydome 2123, le film d'animation hongrois qui fait pas mal de bruit en salle. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous.
Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
Avant de commencer, merci aux gens qui suivent cette émission sur YouTube, qui laissent des commentaires super sympas ou qui le suivent dans son format podcast. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à toutes les plateformes, YouTube avec la cloche, Spotify, iTunes, vous connaissez la musique. Puisqu'on est une émission avec un bistrot d'Andrew, je vous rappelle qu'en description est disponible le formulaire pour s'inscrire pour le dernier tournage des bistrots d'Andrew. Après les bistrots d'Andrew, ça s'arrête. Le dernier tournage, c'est ce samedi, le samedi 4 mai à Montréal. Si tu es dispo ce samedi 4 mai, même si tu as déjà participé au bistrot et que tu veux retenter un coup, n'hésite pas, envoie ta demande dans le lien qui est en description et puis je répondrai à tout ça dans les jours qui viennent. Parce que oui, il y a du boulot, le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec le sujet du jour.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ?
Ah, ils sont pas de la dernière marée, les nouvelles.
Moi, je veux du féroce actualité.
C'est marrant qu'on parle de ce film quand on sait le nombre de débats qu'il y a sur les réseaux tous les 4 matins quand il s'agit de la question des scènes olé olé au cinéma. Oui, je vais pas au cinéma pour voir ça, ça me gêne, ça me dérange, j'aime pas. Il y a même eu récemment un article sur BFM sur cette question-là, qui citait d'ailleurs Challengers en exemple et qui avait comme titre « Comment le sexe fait son retour dans les films hollywoodiens ?» Un article assez intéressant dans ce qu'il évoque, notamment sur le fait que Hollywood s'est plié aux besoins d'un marché plus large, donc faut pas choquer, faut être lisse, et puis vous pensez bien qu'il y a les coutumes en Chine, il y a les coutumes en Inde, etc., etc. Par contre, il y a certaines affirmations de l'article que je trouve un peu sorties d'un chapeau, c'est-à-dire que dire que les jeunes veulent plus voir de cul au cinéma, je cite l'article, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui dit « C'est parce que les spectateurs ont peur du sexe à l'écran, car c'est quelque chose qu'ils ont commencé à dénigrer dans leur vie, c'est comme le retour du refoulé, ils n'ont pas envie de s'y confronter, c'est presque traumatique pour eux. » Ouais, bon, les essentialismes du style les spectateurs, les jeunes, ça fait des phrases choc, mais ça vaut pas grand-chose sans études à l'appui. N'empêche que c'est un débat qui cristallise encore toutes les contradictions entre ceux qui en veulent plus, ceux qui s'en foutent, ceux qui n'en veulent absolument pas, ou encore ceux qui les instrumentalisent. Et dans le cas du film du jour Challengers, c'est d'autant plus présent, mais c'est difficile d'aborder tout ça sans revenir un petit peu sur la carrière de son réalisateur et ce pourquoi il fait du cinéma, à savoir le bon monsieur Luca Guadagnino. Guadagnino, je ne sais jamais comment le prononcer. Alors, Guadagnino, de par son nom de famille, il est italien. Et bien que j'ai vu pas mal de ses longs métrages, il me manque ce qui est considéré pour beaucoup comme son monument, le film qui l'a fait exploser au grand public. Oui, je n'ai pas vu Call Me By Your Name. J'ai pas vu Call Me By Your Name, mais j'ai vu Bones and All. Normalement, niveau cannibalisme, ça compense. Et en vrai, je reprenais la filmo de Guadagnino et j'ai vu Amore avec Tilda Swinton, j'ai vu Suspiria, j'ai vu Bones and All, j'ai vu Challengers. Disons que je commence à avoir vu un sacré panel de son travail. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que depuis Amore, il a arrêté d'être scénariste des films qu'il réalise. Et du coup, la question que ça pose, c'est qu'est-ce qu'il écrivait le bonhomme? Sur quel sujet il écrivait? Et quand il a commencé à arrêter d'écrire des scénarios, vers quel genre de scénario il s'est dirigé? Vers quelle thématique? Et il y a un truc qui se dessine, évidemment, c'est presque galvaudé de dire ce que je vais dire, mais Luca Guadagnino, c'est un cinéaste qui veut représenter à l'écran le désir. Que ce soit le désir qui rêve d'un ailleurs, le désir d'un été, le désir qui s'exprime par le corps, le désir qui s'exprime en mangeant d'autres corps, globalement, tout le cinéma de Luca Guadagnino consiste à représenter le désir sous toutes ses formes. Et comme je le disais, souvent, ce désir s'exprime par le fait de consommer la chair de l'autre. Au sens propre comme au sens figuré. Donc, est-ce que je suis étonné de retrouver ce genre de choses dans son nouveau long-métrage Challengers ? Non, pas du tout. Ça fait partie du contrat. Mais il y a certains spectateurs que ça dérange un peu. Parce que la bande-annonce a teasé subtilement, absolument pas subtilement, mais a teasé, voilà, on peut le dire comme ça, une scène où les personnages jouent à la bête à trois dos, et quand tu regardes le film soudainement, c'est pas particulièrement ce qu'on t'avait promis. Et en regardant moi-même la scène, je me suis dit... Bien évidemment. De quoi voir fleurir sur les réseaux sociaux des témoignages de gens qui disent être partis de la salle, un petit peu frustrés de ne pas avoir leur bagage plein de fantasmes récompensé par une imagerie filmique qui n'est pas celle à laquelle ils s'attendaient. Du tennis, des relations toxiques, pas mal de désirs et une fin en suspens. j'ai vraiment bien aimé Challengers. Et je vous explique pourquoi.
You think that tennis is about expressing yourself, doing your thing. You don't know what tennis is.
What is it?
Bon, Challengers, c'est le récit d'un trouble, sentimental comme professionnel, avec deux anciens amis qui jouaient au tennis ensemble et une tenniswoman devenue coach et femme de l'un d'entre eux. Et j'explique le scénario comme ça parce que, et c'est un des points primordiaux de ce film, il n'est pas linéaire. Vous le savez probablement, mais je réexplique au cas où. Un récit non linéaire, c'est le principe d'avoir des scènes racontées dans le désordre, par le biais de flashbacks, etc. Et il y a deux manières de voir le récit linéaire au cinéma. Soit tu te dis, oh, c'est un peu artificiel, c'est pour créer des enjeux un peu factices et faire de la rétention d'informations. Et c'est un peu ce que c'est dans ce cas-là. C'est même le principe même de faire un truc non linéaire. Ça crée inévitablement ça. Mais après, tu t'interroges sur pourquoi il est utilisé. Qu'est-ce que le récit non linéaire raconte des personnages ? Et là, ça devient vachement plus intéressant. Parce que chronologiquement, il n'est pas linéaire. Mais il est linéaire dans l'ordre des sentiments. C'est-à-dire de l'idée de partir d'une situation un peu basique, de voir une chimie se former, de soudainement voir l'éclatement de cette chimie, ses montées, ses redescentes, jusqu'à une explosion finale. Plus que de raconter, bon, alors, elle était avec lui, maintenant il est avec elle. Non, les sentiments se racontent à travers le match de tennis qui se joue à la fin de leur parcours. Comme si, en jouant au tennis, on se racontait nous-mêmes, en profondeur. Et avec ça, oui, bah là, on touche au point principal du film. J'invente rien, y a pas à le chercher bien loin, c'est exprimé assez grossièrement par Zendaya au début du film, qui dit clairement qu'en jouant au tennis, et ben justement, on se raconte soi-même et on se découvre. On n'a pas besoin de parler. C'est une relation qui se crée en jouant au tennis, bien plus en profondeur que n'importe quelle relation humaine. Et même au-delà de ça, il y a la notion de conquérir l'autre, à savoir conquérir l'autre sur le terrain, mais aussi conquérir l'autre dans la partie un peu plus émotionnelle. Et conquérir, ça passe nécessairement par une dimension d'érotisme, et voilà, bah, tout se recoupe. L'amour n'existe pas, juste le désir de vaincre. Un bon résumé de la vie. Et du coup, Guadagnino, comment il fait pour retranscrire tout ça ? Parce que oui, on est au cinéma, il y a de l'image, qu'est-ce qu'il fait avec son image ? Bah assez basiquement, ou plutôt logiquement je devrais dire, il fait la même chose avec son image, à savoir filmer le tennis comme une notion profonde de rapport au corps. Et à côté de ça, on filme les relations humaines comme le sport. Ce qu'il faut comprendre en gros, c'est que les codes du cinéma s'appliquent au sport, mais les codes du sport s'appliquent aux relations humaines. Pour ce qui est du tennis pur, c'est d'une créativité dingue. C'est-à-dire qu'il y a autant l'envie de regarder le match que d'en être partie intégrante. C'est pour ça d'ailleurs que je voyais des gens se plaindre en mode « oui, le film n'a pas un vrai point de vue », mais c'est un faux débat, parce que c'est un film qui traite de la question du point de vue multiple, du point de vue omniscient, et c'est poussé extrêmement loin. Vas-y que tu deviens les yeux du joueur, un mec dans le public, carrément la balle de tennis, tu te retrouves sous le terrain, le but c'est de t'immerger complètement à l'intérieur de cette action. En fait, il faut à tout prix rendre le tennis plus grand qu'il ne l'est déjà, qu'il obtienne une sorte de dimension quasi mystique, quasi surhumaine, et c'est ce à quoi s'efforce Guadagnino dès qu'il utilise sa caméra dans les matchs. Je suis obligé de citer un animé japonais qui s'appelle Prince of Tennis. J'avais fait la blague en mode c'est Prince of Tennis Horny Edition, mais c'est un peu ça. Et puis quand tu regardes le film, je l'ai vu en IMAX personnellement, il y a certains cadres et certaines manières de cadrer l'action qui m'ont rappelé le travail de l'animation japonaise, comme si j'avais l'impression de regarder un film live action adapté d'un animé. Et ce travail-là est très contrebalancé par le travail des plans sur les relations quotidiennes, sur les relations plus intimes. Même la lumière va aller piocher dans quelque chose que j'appellerais de manière un peu stigmatisante, mais ouais, ça ressemble à une pub de parfum. Ah, c'est joli, ça vend bien son produit, mais quand tu creuses, c'est vin et marketing. Sauf que justement, cette esthétique de pub de parfum, elle raconte quelque chose à nouveau. Elle est au service du propos. Le but, c'est de te montrer à quel point les relations humaines qui se jouent dans la chambre à coucher sont extrêmement factices. Tout y est faux, tout y est surjoué. La vérité se trouve, elle, sur le terrain, parce que c'est là-bas que se trouve le cinéma. C'est pour ça, d'ailleurs, que t'as ce motif avec cette affiche de pub, que tu vois se décrocher, justement, la pub est fake. Qu'est-ce qui devient réel dans les sentiments, c'est le moment où il commence à te filmer la chambre à coucher comme un match de tennis avec cette caméra qui fait des allers-retours de gauche à droite. C'est là, à ce moment-là, que la vérité a lieu. Je suis désolé, je m'emporte, hein, je pourrais m'attarder sur des trucs beaucoup plus basiques en mode ah, c'était vraiment sympa. Non, mais tiens, la musique de Trent Reznor est très réussie. J'aime beaucoup le travail de Trent Reznor. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai parlé de lui dans l'émission de vendredi. Et tu sens que Guadagnino utilise la musique en plus dans une envie de noyer les voix, c'est-à-dire justement de les faire se camoufler à l'intérieur d'une ambiance de combat, une ambiance de duel, une ambiance de match. La musique est utilisée aussi pour te faire ressentir ça. Et c'est d'ailleurs brillamment interprété, que ce soit Josh O'Connor qui est méprisable à souhait, My Faced qui est paumé, Zendaya qui est époustouflante, qui a plus rien à prouver. Ce qui me fascine le plus dans le travail de comédienne de Zendaya, c'est ses yeux. Vraiment, elle a un regard où tout est véhiculé, tout ce que vit son personnage, cette idée de vie par procuration, passe à travers son regard, elle fait extrêmement bien, et c'est notamment cette vie par procuration qui mènera plus tard dans le récit à avoir cette envie d'utiliser justement le sexe comme une arme pour gagner des matchs. C'est pas du spoil, on pourrait spoil un peu d'ailleurs, on va spoil sans spoil. La fin du film, la vraie fin du film, laisse des zones de flou que je trouve extrêmement satisfaisante vu tout ce qui est raconté avant. Parce que le but, c'est de te rappeler le combat, de mettre en avant le combat plus qu'une forme de finalité. Le vrai parcours de vie se déroule pendant le match. Quand le match est fini, ce qui se déroule après, on s'en fiche un peu. Et donc, j'en reviens à mon truc du début, où je vous parlais de cette scène promise dans la bande-annonce et que les gens ont finalement pas eu. Mais cette scène-là, elle canalise en son sein déjà toutes les thématiques que je viens de citer. C'est une scène sur le désir, c'est une scène sur le contrôle, sur la manipulation de l'autre, sur le fait de vivre quelque chose par procuration en regardant les autres le faire. Quand deux mecs s'embrassent dans cette scène, c'est littéralement ce que ça raconte. On pourrait avoir tendance à trouver le récit un petit peu manichéen, à vouloir appliquer, je sais pas, dire tiens, Zendaya est la méchante dans l'histoire ou quoi que ce soit, mais en vrai, ils utilisent tous les mêmes méthodes qu'elle, soit ils sont carrément trop lâches pour accepter de les utiliser. La scène qui a posé problème à plein de gens, c'est la scène qui raconte le mieux tout ce qui va se produire dans le film et tous les enjeux interpersonnages. C'est en un baiser que se raconte l'entièreté d'un film de 2 heures. Et quand je vois sur les réseaux des gens hurler en mode « Ah, je suis parti à cette scène et tout, elle était vraiment inutile », mais avons-nous vu le même film? C'est-à-dire, vous pouvez faire comme les commentaires de vendredi, hein, résumer tout ça, de la propagande, etc. Mais après, il faut voir le film en entier, il faut voir ce qu'il raconte. Et quand il raconte un truc pleinement, tu fais « Ah merde, en fait, c'est du cinéma et c'est bien plus intéressant que ce qu'on m'a vendu dans une bande-annonce, en fait. » Je vais pas revenir dessus, je suis saoulé. Moi, ce que j'ai vu, c'est un film bourré d'idées, qui surmultiplie ses intentions, qui utilise sa caméra avec une inventivité dingue et qui s'inscrit parfaitement dans la droite lignée de tout ce qu'a fait son auteur avant. Avec une fausse fin joyeuse encore, mais cette fin est-elle vraiment joyeuse? Bon, elle est toujours plus joyeuse que celle de son précédent, hein, la fin de Bones and All. Ouais, bon, la joie était pas présente. Donc, voyez Challengers. C'est un shot d'adrénaline bourré aux hormones et à la sueur de corps filmé de manière sublime. L'été arrive et ça y est, on a déjà très chaud.
He's not in love with you.
What makes you think I want someone to be in love with me?
Allez, c'est lundi, vous connaissez le principe, c'est l'heure du bistrot d'Andrew qui réunit 4 personnes parmi vous autour d'une table afin de parler tous ensemble de cinéma, du cinéma que vous aimez, vous. Rappel d'ailleurs, j'en ai parlé au début de l'émission, les bistrots d'Andrew, c'est fini, le dernier tournage, c'est samedi, si t'es à Montréal, formulaire en description, voilà, je le répète en boucle. Et aujourd'hui, on a quoi au menu? Aujourd'hui, on a chasseur, carpenter, plan séquence, modification génétique et gros travaux. Un sacré paquet de trucs aujourd'hui. Andrew, c'est à toi.
C'est une excellente question.
Qu'est-ce que vous voulez comme remontant?
Je vous fais confiance.
Bon.
Bonjour à tous et bienvenue dans le bistrot d'Andrew. Comme chaque semaine, 4 invités. Donc je suis en compagnie de...
Mathis.
Salut.
Oscar.
Weldir.
Clémence.
Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Moi, je suis étudiant en relations industrielles.
Nice.
Graphiste motion designer.
Ouh.
Météorologue.
Et lighting artist.
Nice. Donc, bah, vous êtes venus cette semaine pour me parler d'un film. Donc, on va commencer par Oscar.
Ouais.
Tu vas nous parler de quel film?
Moi, je vais vous parler aujourd'hui de Victoria, de Sebastian Schippers. Alors, Victoria, en fait, ça raconte l'histoire d'une jeune Espagnole qui vit à Berlin. Et le film, il commence, en fait, tu suis donc Victoria, qui rencontre 4 jeunes Berlinois en sortant de boîte de nuit. Il doit être quoi, 5-6 heures du matin? Elle doit ouvrir sa boutique, je crois, c'est un café vers 7-8 heures. Donc plutôt que de rentrer chez elle, elle va décider de les suivre. Ouais, elle va se laisser porter en fait par les ses amis d'une soirée. Et en fait, ils vont faire 2-3 bêtises, ils vont lui présenter, lui faire découvrir un peu un Berlin qu'elle n'avait pas encore vu. Ils partent, elle peut ouvrir le café. Et à un moment, ils reviennent. Et là, le film, il bascule. Et je vais pas trop en dire plus sur l'histoire, parce que je pense que ouais, faut garder un peu de mystère. Mais tu peux pas parler de ce film en précisant une chose, c'est qu'en fait...
Une particularité, ça.
Ouais, une grosse particularité technique, c'est un plan séquence, un vrai plan séquence de plus de 2 heures. Un vrai plan séquence de plus de 2 heures, par moment, tu le sens un peu passer. Surtout, je dirais, la première partie, la première heure, tu sais pas trop ce qui se passe, en fait. Tu sais pas trop où le film va. Tu sais pas trop si tu regardes, en fait, une comédie romantique, si ça va être un truc un peu hardcore. Tu sais pas trop, mais tu te laisses porter. Tu te laisses porter jusqu'à ce moment où il y a une sorte de... C'est pas un twist, mais ouais, il y a une bascule. Il y a une bascule, et là, c'est un peu plus chaud.
Cut, s'il vous plaît, excusez-nous.
Eh ben, Andrea, ça reprend dès que tu veux.
C'était quoi la probabilité qu'il coupe des chiottes pendant l'émission?
Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Donc, je disais, est-ce que t'as des informations sur le film, sur le tournage, des anecdotes?
Alors, de mémoire, à l'époque, je m'étais un peu renseigné. Il me semble déjà qu'ils ont tourné, en fait, le film 3 fois. C'est-à-dire qu'il existe 3 versions du film différentes. Bah forcément, il a pris la version qu'il pensait être la meilleure. J'en ai vu une, alors je suis plus sûr exactement, faudra vérifier, mais il me semble qu'à un moment, il y a une séquence où ils sont dans la rue et t'avais l'équipe technique du film qui était en train de se battre live à côté avec des mecs un peu trop bourrés, justement, pour pas qu'ils interfèrent avec le tournage. C'est-à-dire que potentiellement, t'as un moment où, dans le film, les acteurs ils sont en train de jouer et à côté d'eux, t'as l'équipe technique qui est en train de s'envoyer avec des gars un peu sous dans la rue.
Victor m'a dit que carrément, dans une des scènes, pour avoir le lever de soleil, il commençait les tournages à 5h du matin, si je me trompe pas. C'est ça, hein?
Ouais. C'est, bah forcément, en plus, plan séquence, ça demande, je pense, une technique. Tu sais, faut être millimétré, je pense. Faut être très précis et ouais, ils ont dû galérer, je pense, quand même.
Bonjour, c'est Victor en régie. J'espère que vous allez bien.
Salut.
Je me permets juste de poser une question. Est-ce que le fait que le film soit en plan séquence, parce que je l'ai pas vu, ça crée pas peut-être certaines longueurs, certains trucs qui peuvent te sortir du film, ou au contraire, est-ce qu'ils arrivent à tenir un rythme assez tendu tout le long?
Les 2 heures, quand même, c'est 2h15, je crois, plus précisément. Tu les ressens un peu par moment. Mais à côté de ça, à partir du moment où le film, il est lancé, je dirais qu'il, quand même, il se justifie. Le plan séquence, il se justifie parce que déjà, quand ça va être beaucoup plus tendu, tu peux pas t'échapper. T'as pas d'ellipse, t'as pas de cut, donc tu peux pas partir ailleurs. Tu restes, tu t'assumes avec les autres personnages ce qui se passe. Peut-être cette première heure qui est un peu longue, elle te permet de comprendre pourquoi il se passe ce qui se passe après. Un peu long par moment, certes, mais justifié. C'est pas juste une prouesse technique. En fait, moi, si je m'avais fait réaliser un truc, c'est que... Et je pense que le plan séquence, il accentue ça. C'est que très vite, tout peut basculer dans une vie, en fait. Tout peut basculer. Et le fait que là, en plus, c'est un plan séquence, ça dure 2 heures. Tu vois l'avant, tu vois le après, tu vois le pendant. Ça marque.
Enfin, mais du coup, on va passer à Waldir. Donc, tu vas nous présenter un film, et c'est...
Bienvenue à Gattaca. Donc de Andrew Niccol. C'est d'ailleurs son premier film et pour la, on va commencer avec une petite anecdote, c'est que pour financer son premier film, il a vendu son scénario The Truman Show avec Jim Carrey.
Okay.
Et comme premier film, Bienvenue à Gattaca, c'est juste hallucinant. Pour moi, ça a été la première découverte au niveau de films de science-fiction qui ne proposent pas d'effets spéciaux.
Okay.
Ça se passe dans un futur plus ou moins proche, mais on n'arrive pas trop à voir à quelle époque on est, dans le sens où il y a un mélange au niveau des décors. C'est-à-dire qu'on va retrouver des voitures des années 50-60, mais avec un petit bruitage de voitures électriques. Et on est dans une société, en fait, qui est scindée en deux. C'est-à-dire la haute caste qui sont nées par le biais de manipulation génétique. C'est-à-dire qu'on fait le maximum avant la naissance, de manière à exacerber toutes les qualités potentielles qui sont en toi. Mmh. Et par contre, la seconde classe, c'est justement la sous-classe, les gens qui sont nés de manière normale. On a laissé le brassage génétique faire son travail. Et donc, on suit l'histoire de Vincent, qui est joué par Ethan Hawke. Donc, lui est issu justement de la sous-caste et son rêve, c'est de devenir astronaute. En parallèle, justement, on suit l'histoire de Jude Law, qui lui a été modifié génétiquement et c'est un athlète qui est handicapé. Et ce qui va se passer, c'est que lui, étant donné qu'il est handicapé, il ne peut pas travailler et il veut garder son mode de vie qui est assez riche en soi. Donc, en fait, ils vont échanger leur identité, sauf qu'on vit dans un monde où le moindre cheveu, le moindre postillon fait qu'on peut t'identifier facilement. Et en parallèle, il y a un meurtre qui a lieu et dans l'entreprise où ils travaillent.
Ouais.
Et ce qui fait qu'il va y avoir pas mal d'enquêteurs. Et c'est là où le bât blesse, c'est que si les flics sont là, il va y avoir justement plus de recherche au niveau d'anomalies. C'est vraiment une belle critique par rapport à tout simplement dans ta vie. Ça t'est forcément arrivé que quelqu'un te dise « Ouais, non, t'es pas fait pour faire ce métier. Non, t'as pas les capacités pour. » Certaines personnes ont vécu d'ailleurs avec des assistants ou assistantes sociales où on disait « Bah non, t'as pas les bonnes notes pour. » Et c'est ça, c'est que le film critique énormément ce mode de fonctionnement. Il y a pas mal de références à la George Orwell et tout ça. Donc ou sinon, c'est Le Meilleur des Mondes, je crois. Il y a un livre qui s'appelle comme ça.
Là, je l'ai pas lu. Je t'avoue, la littérature.
Ok. Ouais, Huxley. Oui.
J'ai jamais réussi à lire son nom.
Adolphe Huxley.
Adolphe Huxley.
Voilà, bonjour. On lit des livres ici.
Je sais pas comment il a le temps de faire tout ça.
À la fois, j'ai été frustré la première fois que j'ai vu ce film parce que je m'attendais à en voir plus. Et en même temps, après avoir digéré, entre guillemets, le film, on se rend compte à quel point la thématique est super pertinente. Surtout que je crois que quelques années plus tôt, on venait juste de faire le premier clonage d'un mammifère, c'est la brebis Dolly.
Oh bah oui.
Comment l'être humain réagirait si justement on laissait la possibilité aux parents de « Ok, t'as telle maladie qui est héréditaire, on te propose la possibilité d'éviter qu'il ou elle soit myope, qu'il souffre de calvitie. » Mais il y a forcément des dérives qui vont avec. C'est-à-dire qu'à un moment, le médecin dit « Mais pour 5 000 $ de plus, j'en fais un bête de mathématicien ou un super musicien. »
Horrible. Mais du coup aussi, il y a un rapport du fait que si pour plus d'argent, tu peux être encore plus parfait. Du coup, même dans la perfection, tu as des gens qui seront quand même inférieurs à d'autres par rapport à l'argent que tes parents avaient lors de ta naissance. On me dit que c'est bon.
Non.
Le réalisateur...
J'ai surtout une seconde.
parce que je sais pas s'ils sont en train de poncer là maintenant.
C'est une horreur ce tournage, putain.
Il y a des bûches dans le...
Non mais moi j'en peux, plus là.
Faut savoir qu'en ce moment pendant le tournage il y a des travaux qui se font dans le bar. Donc voilà, si vous entendez des bruits un peu chelous pendant le podcast, c'est normal.
Il y a des bûches en arrière-plan.
Eh bien on va passer avec Clémence. Donc tu vas nous parler d'un film.
Donc je vais parler de The Silencing avec Nicolas Waldo, Coster Waldo, je vais jamais y arriver. Et l'histoire c'est donc Nicolas, il joue un garde forestier qui avant était un des meilleurs chasseurs de la région, mais il a arrêté, on comprendra plus tard pourquoi. Et en fait ça se passe entre lui et Wallis qui est la nouvelle shérif dans une petite bourgade d'hommes, de chasseurs, enfin bref, elle est pas tant aimée que ça. Du coup il y a vraiment deux histoires parallèles qui vont s'entremêler. T'as la shérif qui veut faire régner l'ordre et la justice dans son comté, en bordure avec un comté de Première Nation. Et où du coup, il y a, enfin, c'est terrible. Je sais pas si ça se fait beaucoup en France, mais au Canada, enfin, quand t'es en Première Nation, en général, si t'es une femme, t'as plus de chances d'être tuée, etc.
Angoisse, ok.
Il y a plus de misère sociale et c'est triste. Et donc du coup, ça se passe entre elle et le garde forestier qui voit par des caméras un petit bastard de chasseur qui est habillé super bizarrement. Et en fait, il voit qu'il est en train de chasser une petite fille de 14 ans.
Ok.
Du coup, la shérif, elle l'enquête sur un tueur en série, a priori, qui tue des tonnes de filles qui ont sans doute plus ou moins adolescentes, préadolescentes. Et du coup, ça va se baser là-dessus, sur leurs deux histoires. Et il y a vraiment... Enfin, l'éclairage est absolument incroyable. Il y a tout un travail sur la colorimétrie entre le vert, bleu et le rouge. Et il y a toute une réflexion même sur les personnages. Du coup, selon comment ils sont habillés, dans quel éclairage ils sont. Les premiers plans, c'est magnifique. C'est un gros plan sur le sanctuaire. Et t'as tous les arbres qui sont bleus. C'est l'automne qui va arriver. Et tu vois qu'en fait, le sol, les rochers sont rouges, les feuilles sont rouges parce que l'automne va arriver et ça fait un peu... la forêt est magnifique, mais le sol est jonché de sang. Dès que quelqu'un va se mettre à chasser ou faire un mauvais choix ou faire couler du sang ou des larmes, il va être entouré de rouge, plus ou moins. On peut voir presque, on peut lire le scénario dans l'éclairage. Aussi, il y a un grand contraste entre les éclairages en extérieur qui sont plutôt neutres et vraiment quand ils sont en huis clos, là niveau couleur ça y va, c'est vraiment
plein de lumière artificielle,
ouais, du bon sien, et c'est, ça donne un côté très électrique et ça, tu sais, c'est un peu stressant. Enfin, j'aime bien les films policiers ou les westerns, ouais,
c'est un
peu
thriller policier en fait, hein.
Ouais, c'est ça, mais du coup de base c'est un peu ma Madeleine de Proust, c'est ce que j'ai regardé en dehors des Disney, plus ou moins en soum-soum, dans les premiers films
dans Disney, en même temps des thrillers de police. On est bien là.
Non mais ma maman m'interdisait un peu de regarder des films, du coup c'est toujours une Madeleine de Proust. Mais là ce qui est incroyable, c'est souvent dans les films policiers, t'as le méchant et les gentils. Là, c'est juste une justice faite par des hommes pour des hommes. Enfin, toute une réflexion sur ceux qui vont être des proies, ceux qui vont être des chasseurs, ceux qui vont être bons et ceux qui vont être mauvais. Et tu vois que du coup, les couleurs s'entremêlent. Il y a des fois des gens qui vont faire justice, mais qui vont se faire justice.
C'est un film qui, du coup, pour les gens qui travaillent dans le cinéma et qui aiment bien dans la technique, c'est un film parfait pour eux, du coup.
En vrai, oui, parce que le scénario est très imprévisible. Et comme il n'y a pas de gentils ou de méchants, c'est vraiment des humains qui font des choix plus ou moins bons. Et aussi, ouais, t'aimes l'éclairage ou enfin, c'est très bien cadré. Et
nice. Et du coup, on va finir par Mathis.
Oui.
Tu vas nous parler d'un film qui est génialissime.
Ouais, je vais vous parler de In the Mouth of Madness, l'antre de la folie de John Carpenter. En fait, ça vient tout d'un courant, l'horreur cosmique, avec sa trilogie de l'apocalypse. Fait que The Thing, que j'ai pas vraiment aimé, The Prince of Darkness, qui était quand même pas pire, puis c'est son meilleur, d'après moi, In the Mouth of Madness. Ça adapte une des nouvelles de H.P. Lovecraft. L'histoire, là, de base, c'est on a un enquêteur en assurance qui va enquêter sur la disparition d'un écrivain célèbre. Puis au courant du film, là, je vais pas trop spoiler, mais là, on voit son enquête. Moi, le film, ce qui m'a marqué dedans, c'est vraiment par ses visuels, son ambiance, surtout son ambiance, sa musique. T'as envie de savoir ce qui se passe au fur et à mesure. Les décors sont fabuleux. Les effets spéciaux aussi pour John Carpenter, les effets spéciaux sont incroyables dedans, surtout ceux de la fin.
Que ça a bien vieilli, par exemple.
Ouais, c'est un film qu'on peut voir aujourd'hui, mais avec quelques effets spéciaux qui sont un peu datés.
Oui.
Oui, bonjour, c'est Victor en régie. C'était juste pour dire que je suis un immense fan de John Carpenter.
Ouais.
Et notamment parce que moi, j'ai grandi justement en voyant, en me faisant ma connaissance du cinéma horrifique avec The Thing, ouais, avec Halloween, etc. Et l'année dernière, je me suis lancé dans un truc de me dire, oh putain, j'ai pas vu plein de Carpenter. Et j'ai découvert à la suite l'année dernière Prince des Ténèbres, ouais, L'Antre de la Folie, The Fog. Et ça a été à chaque fois claque sur claque sur claque. Et je suis assez d'accord avec toi pour dire que L'Antre de la Folie, qui a été mal aimé à l'époque de sa sortie, ce qui est quand même scandaleux, et pour moi un des films les plus fous que j'ai vu de ma vie qui se bat avec Prince des Ténèbres. Je sais que t'as du mal avec Prince des Ténèbres.
Prince des Ténèbres, c'est à cause que c'est lent, puis ça paraît que c'est comme année, je pense, année 90 qu'il l'a fait.
Ouais, 80. Mais il y a des idées de dingue. Moi, je me suis jamais remis dans Prince des Ténèbres du plan à travers le miroir à la fin. Je le trouve absolument traumatisant,
c'est quoi,
ce
plan. C'est spoiler, là?
Bah, non, c'est pas du spoil.
Quoi,
c'est pas du spoil. C'est juste dire qu'il y a un plan à travers un miroir. Non, non, non. Par contre, si vous voulez vraiment découvrir un univers qui est complètement dingue, avec toutes les folies permises, notamment par le travail de Lovecraft et tout, parce que j'ai beaucoup aimé dans Land de la Folie, c'est tout le délire. Tiens, il y a des créatures bizarres qui se baladent. Et comment est-ce qu'on les représente? Comment elles se manifestent à l'intérieur du village? Tout est possible dans ce village parce que tout est possible dans la littérature. C'est brillantissime. Vous voyez, du Carpenter, c'est formidable.
Et donc, pourquoi tu nous parles de ce film-là?
C'est un film qui m'a vraiment marqué parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'horreur cosmique, vraiment comme Event Horizon de Paul W.S. Anderson, son seul bon film d'ailleurs. C'est toute une ambiance, tout comme un mystère qu'on te cache, mais qui est présent. Fait que moi, je trouve ça assez fucky. Fait que c'est pour ça que j'aime ça, toute l'ambiance, surtout l'ambiance et les visuels. John Carpenter, c'est vraiment ses visuels, comme dans Escape from New York 97, de Fog, comme tantôt Victor disait, c'est incroyable son ambiance. Fait que c'est un film avec, je pense que c'est son meilleur film d'après moi. Moi, je veux vraiment avec les films ambiance, parce que c'est vraiment un film qui m'a principalement marqué par ça.
Et bah, du coup, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. J'ai découvert des films qui ont l'air extraordinaires. Comme d'habitude, je m'engage à les voir. Ah, je rends le micro à Victor, bien évidemment.
Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis « Hey, vous avez une question sur l'actualité ?» Je le dis avec cette voix. Et si vous avez une question sur l'actualité ou en tout cas que j'ai une réponse, eh bien, je réponds à cette question. Le plus simple, c'est de me suivre sur Instagram. Le lien est dans la description. Et aujourd'hui, la question nous vient de Théo Pellarin qui demande « Quoi de beau à voir au Festival d'Annecy cette année ?» Eh ben, un paquet de trucs. Le line-up est assez dingue. Le Festival d'Animation d'Annecy qui se tiendra à Annecy, sans surprise, se déroulera du 9 au 15 juin et il a annoncé sa sélection complète et à l'intérieur, il y a un sacré nombre de films que j'ai très envie de voir. Je vais pas faire le mec hein, qui connaît tous les noms de tous les petits réals des sélections courts-métrages, c'est absolument pas le cas, mais si on s'intéresse notamment à la sélection officielle, il y a un paquet de noms assez intrigants. Il y a bien évidemment des films en avant-première, des films attendus, des films de gros studios, je pense notamment au nouveau film Garfield, où Garfield est joué par Chris Pratt. Ils ont quoi les Américains avec Chris Pratt en ce moment ? Dès qu'ils font un film d'animation, ils mettent Chris Pratt dans le premier rôle, c'était déjà le cas avec Mario. Je comprends pas, je ne comprends juste pas. De la part de gros studios, il y aura aussi Moi Moche et Méchant 4, il y aura Vice Versa 2, c'est vraiment le moment où certains studios viennent tester des images de leur prochain film, notamment Disney viendra tester les premières images de Vaiana 2, et on aura aussi des images du Robot Sauvage, le nouveau DreamWorks. Ça va être super. Mais les images que j'attends le plus perso, c'est les premières de Astérix et Obélix, le combat des chefs, une série animée réalisée par Alain Chabat. Oui, après les deux films d'animation d'Astier, c'est Alain Chabat qui a récupéré le bébé, peut-être que ce sera dans son ambiance façon Mission Cléopâtre de l'époque, en tout cas c'est une série et il me tarde très 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 fort de voir ça. Ça c'est pour les gros événements avant-première, mais il faut pas oublier la compétition officielle et... Ouais, bon alors, on va être honnête, la moitié a été repiquée à Cannes, voilà, faut le dire. C'est toujours comme ça, mais en gros, on aura à Annecy la plus précieuse des marchandises d'Azanavicius, on aura Flo, on aura Anzu le chat fantôme. Après, il y a d'autres trucs qui me chauffent pas mal, je pense notamment à The Colors Within, qui est un film japonais réalisé par Naoko Yamada. Naoko Yamada, c'est une réalisatrice qui avait fait aussi A Silent Voice et elle faisait partie du studio Kyoto Animation, dont j'avais parlé dans une émission il y a quelques mois. Dans les films de la compète officielle, il y aura aussi Memoire of a Snail. Alors, Memoire of a Snail, c'est le nouveau film de Adam Elliott. Adam Elliott qui est le réalisateur d'un film aujourd'hui assez culte d'animation qui est Marie et Max. Et c'est, tu regardes les premières images, c'est exactement le même style que Marie et Max. C'est encore de l'animation en pâte à modeler. Ça aussi, j'ai très envie de le voir. Le Festival d'Annecy, ce sera aussi l'occasion de croiser des gens sympathiques comme Wes Anderson. Wes Anderson d'ailleurs qui est invité d'honneur et qui paraît-il aura une section qui lui sera consacrée en VR. J'espère que s'il y a une expérience VR Wes Anderson au Festival d'Annecy, cette expérience restera pas juste au Festival d'Annecy et qu'elle terminera ensuite sur le store du MetaQuest ou quoi, qu'on puisse vivre l'expérience Wes Anderson dans un casque à la maison. Ce serait quand même sympa. Et le Cristal d'Or du Festival d'Annecy, le prix honorifique du festival, sera remis cette année au génie Terry Gilliam. Et alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Attends, le réalisateur Terry Gilliam, il a jamais fait de film d'animation. »
En fait, si, en fait, à l'époque des Monty Python, et même dans ces films qu'on suivit, c'est Terry Gilliam qui gérait toute la partie animation, qui imposait justement un style extrêmement particulier. Bref, sa patte est extrêmement connue, extrêmement reconnaissable, il a toute sa place ici. En vrai, je me suis beaucoup plaint dans les émissions précédentes du fait que le Festival de Cannes mettait pas assez en avant cette année le cinéma d'animation, ce qui était en plus un peu contradictoire dans une année où ils remettent une palme d'honneur au Studio Ghibli, Studio Ghibli qui a pas toujours eu franchement beaucoup de place sur la croisette. Mais c'est plaisant de voir ensuite le Festival d'Annecy sortir sa sélection et dire bah regardez tout ce qui existe en fait en termes de cinéma d'animation, regardez justement la richesse du délire, venez voir ça. Et là je vous parle vraiment que des principaux, c'est sans compter tous les jeunes talents qui seront présents avec des courts-métrages bizarres de 3 minutes avec des styles d'animation que t'as jamais vu ailleurs, et en 3 minutes tu te prends une immense claque plus forte que sur des films d'une heure et demie. C'est riche, c'est dense, c'est foisonnant l'animation, ça permet de partir dans d'autres univers absolument merveilleux. Et c'est marrant parce que parler d'animation maintenant recoupe pas mal avec le dernier sujet de l'émission.
Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne.
Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, c'est pas moi qui parle de film. Non, c'est vous. Et si vous voulez passer dans l'émission ce vendredi, il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepirepodcastciné@gmail.com. Vous parlez d'un film récent ou non, qui vous plaît ou pas, vous avez des choses à dire sur un film, vous voulez l'exprimer, vous voulez passer dans l'émission, eh bien, envoyez un audio à cette adresse mail. Le site Apple Temps Notel se trouve aussi dans la description. Bref, n'hésitez pas, j'écouterai tous vos audios et je verrai qui passe dedans. Et aujourd'hui, c'est par la voix du peuple que j'ai été amené à parler de ce film-là. Oui, en effet, le peuple m'a dit « Quoi, t'as pas parlé de ça ?» Eh ben, on va en parler. Sky Dome 2123. Comme je disais, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages suite à l'émission de mercredi où je parlais des sorties ciné et à me dire « Putain, Victor, t'as pas parlé de ce film qui sort en salle, il est important, c'est un film d'animation, blablabla. » Et je dois bien avouer que oui, carrément, ce film était complètement passé sous mes radars. Mais du coup, j'avais pas envie de rester dans l'ignorance et je me suis empressé de rattraper Sky Dome 2123. Et oui, il y a des choses à dire sur le film. Film d'animation hongrois, on est sur Terre en 2123, la planète a été complètement ravagée et pour que l'humanité survive, il faut sacrifier une partie de la population. Du coup, tous les humains, à l'âge de 50 ans, quick, ils sont envoyés dans des champs pour être transformés en arbres, parce que c'est important les arbres, il faut que tu respires, et ça c'est pas rien de le dire. Et un jour, Stéphane, notre protagoniste principal, va voir sa femme Nora décider de passer de l'autre côté et de se transformer en arbre 18 ans avant la deadline. Il va pas réussir à accepter cette situation, et va donc décider de prendre tous les risques pour la sauver, et va s'en suivre un road trip, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, et je l'explique pour les gens de la version audio, c'est que le film est entièrement animé en rotoscopie. Alors, pour expliquer ce que c'est la rotoscopie, c'est-à-dire qu'on filme les scènes avec de véritables humains, comme on filmerait un film classique, et ensuite on va redessiner par-dessus les images qu'on a filmées. Et ensuite on efface ce qui a été filmé, on ne garde que la partie redessinée par-dessus, et ça donne le film. Il y a plein de films qui existent en rotoscopie, un des plus récents et des plus connus c'est The Scanner Darkly de Richard Linklater, mais il y a des auteurs qui en avaient fait leur spécialité, je pense notamment à Ralph Bakshi, qui a émis de la rotoscopie dans son film Le Seigneur des Anneaux, mais aussi dans Cool World, son Roger Rabbit sous LSD. C'est un style d'animation très marqué, et j'aime à croire que ça a un sens profond quand tu décides d'utiliser la rotoscopie dans un film. C'est-à-dire par exemple dans A Scanner Darkly, un film qui joue sur la frontière très trouble entre la réalité et mon Dieu un autre monde, bah utiliser la rotoscopie, cet entre-deux, c'est justement pertinent. Mais dans le cas précis là de Sky Dome 2123, je m'interroge vraiment sur la pertinence d'utiliser la rotoscopie dans ce contexte-là, sachant qu'en plus, seuls les humains sont faits en rotoscopie, tout le reste, tous les décors, tous les éléments autour sont faits en 3D de l'époque de la PS2. Ouais, et je suis gentil à ce niveau. Et vraiment, c'était mon premier avis. Au bout de 20 minutes dans le film, je me disais, mais qu'est-ce que c'est moche. Personnage comme décor, hein, tout confondu, je trouvais le film d'une laideur dingue. Et à force de le trouver laid, ça me sortait complètement de l'expérience. Parce qu'à force de repérer tous les petits défauts d'animation en boucle, trouver ça assez inexpressif et tout, j'arrivais pas à rentrer dans le film. Ça me dirigeait continuellement vers la porte de sortie. Et je me disais, putain, va falloir que l'histoire, elle soit vraiment forte et vraiment puissante pour réussir à me réintégrer à un truc dont je trouve tout le dispositif cassé. Et ben, banco. Parce que petit à petit, j'ai arrêté de me plaindre et je me suis complètement immergé à l'intérieur de cette expérience. Parce que ce qu'on va te faire suivre, c'est un road trip de fin de relation amoureuse sur une terre désolée où tu sais pertinemment que la fin ne sera pas particulièrement joyeuse. C'est à la fois un film sur la fin de l'amour, mais c'est surtout un film sur la question du deuil, sur l'acceptation de la fin et comment ne pas se détruire pendant cette période d'acceptation que les choses sont finies, quoi. C'est-à-dire qu'on te raconte la fin de la terre dont l'humanité dessus est maintenue artificiellement essentiellement par un procédé d'une cruauté dingue, mais on réduit justement le grand dispositif à quelque chose de plus petit, à savoir une relation avec ce couple qui vit en plus un deuil impossible à dépasser. Et à travers ça, le film t'emporte, fonctionne vraiment bien et est aidé en plus par un paquet de séquences qui sont aussi cruelles que tragiques. La première fois où tu vois cette ferme avec tous ces corps humains qui attendent d'être transformés, la première fois que tu vois cet arbre dont les feuilles disposent d'empreintes digitales, c'est toutes ces petites idées qui te permettent de t'immerger à l'intérieur de cet univers. L'univers et le fond dépassent la forme. Et ça, c'est pas banal parce que, en plus d'être hideux, le film est parfois assez confus dans sa narration. Des personnages arrivent et repartent sans avoir particulièrement été installés. Parfois, t'as des enjeux qui se déroulent et tu te demandes si c'est vraiment cohérent avec tout ce qui se passe dans l'histoire. Non, c'est parfois pas très bien raconté. Mais j'aime le fait que, à partir d'un film comme celui-là, qui aurait pu faire comme beaucoup de films d'animation, à savoir utiliser ce prétexte pour faire une parabole écologique un peu plan-plan, sachant que t'as toute cette histoire avec les arbres qui empoisonnent les humains, donc il y a aussi toute cette notion à traiter à l'intérieur. Et ben, on se sert de ce désastre écologique en cours pour en revenir à l'humain, sur les conséquences très concrètes que ça va avoir sur sa vie et sur sa capacité, sa non-capacité à accepter sa fin. Faut le dire, j'étais assez ému dans la dernière partie du film, dans la séquence du train aussi. Je trouve la séquence du train extrêmement belle et ça m'a surpris de ressentir ça devant un film qui, vraiment, au départ, me faisait me dire « Mais non, mais j'arriverai jamais à rentrer dedans, je trouve ça laid !» Je continue de trouver le parti pris artistique assez artificiel. Voilà, je continue quand même de penser ça. Mais le fait que ça m'ait rattrapé de la sorte, bah bravo, bravo, c'est top. On n'a pas souvent des films hongrois en salle, encore moins des films d'animation hongrois dans les salles françaises, distribués en plus avec plus d'une centaine de salles, c'est quand même incroyable. Si vous avez l'occasion de le voir, ce serait quand même super à con de le rater. C'est pas parfait. Mais pour le pari qu'entreprend le film et la manière dont il arrive à te rattraper et à te toucher, ça vaut le coup d'aller en salle. C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque là. J'espère que vous allez bien et que tout va bien dans votre famille et dans vos proches et dans tout ce qui s'ensuit. On est reparti pour une semaine d'actualité. Je sais pas pourquoi je suis monté à la fin de cette phrase, c'était très bizarre. Vous avez vu le truc que j'ai tenté au début? Est-ce que vous êtes encore là à la fin de l'émission? Je sais pas, je sais même pas quel commentaire vous dire de mettre pour que tout, qu'on sache que tout le monde était encore là. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous êtes encore là. En attendant, on se retrouve mercredi pour une nouvelle émission. Pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore...
Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire là.
Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.